Une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va pas juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas. Les PCI 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SPJC, je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, mon podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Emmanuel Martin, prof d'éco en prépa à Sarcelles, et cette semaine, je laisse la parole à Robin Lemoine, journaliste indépendant spécialisé en sciences économiques et sociales. Salut Robin.
Salut Emmanuel.
Dans cet épisode, tu vas nous parler de demande induite, du Québec et d'Aurélien Rousseau.
Exactement. Pour commencer, je vais te parler d'une promesse républicaine. Celle-ci est présente dans nos textes et dans des dizaines de textes internationaux. On la retrouve d'abord dans le préambule de la Constitution de 1946. Je cite.
La nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère, aux vieux travailleurs, la protection de la santé.
Sur ce fondement, le Conseil constitutionnel a reconnu en 1999 le droit à la protection de la santé comme un objectif de valeur constitutionnelle. Le droit pour toutes et tous à l'accès aux soins de santé est donc considéré en France comme un droit fondamental.
D'accord, merci pour ce petit cours de droit constitutionnel, mais pourquoi tu nous parles de ça ? On va parler santé aujourd'hui.
Tout à fait, et plus précisément du non-respect de cette promesse républicaine. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le Conseil d'État dans un rapport d'information datant de 2020. Je cite encore.
Depuis 20 ans, un écart croissant s'est créé entre le droit et le fait. Vanté pour sa capacité à garantir à tous les citoyens un égal accès aux soins, le système de santé français n'a pas su empêcher le creusement des inégalités territoriales d'accès aux soins.
En gros, les populations, en fonction de l'endroit où elles habitent, n'ont pas le même accès aux soins, car certaines se trouvent dans ce qu'on appelle couramment des déserts médicaux. On reviendra un peu plus tard sur cette expression et sur sa définition. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette problématique est encore présente aujourd'hui. Et récemment, une association a décidé de monter au créneau. L'association de défense des consommateurs, l'UFC Que Choisir. Dans une étude publiée le 21 novembre dernier, celle-ci affirme que 83% de la population vit dans un désert médical pour au moins l'une des spécialités suivantes, généraliste, pédiatrie, gynécologie, ophtalmologie. L'étude révèle aussi qu'il est encore plus difficile qu'avant d'avoir un médecin traitant et que les délais de rendez-vous sont toujours plus longs. Face à cette situation, l'association a pris une décision radicale. Attaquer l'État en justice pour inaction et lancer une campagne sous le hashtag Ma santé n'attend plus. En face, le gouvernement, et plus particulièrement Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, réfute ce terme d'inaction. Toujours est-il que la situation est grave et presque tous les experts de la question le reconnaissent. Doit-on bannir la liberté des médecins ?
Tout d'abord, Robin, c'est quoi un désert médical ?
Alors, on ne va pas se mentir, un désert médical, ce n'est pas simple à définir. Dans la communauté scientifique, on préfère parler de déséquilibre entre l'offre et la demande. Parce que désert médical, ça ne veut pas dire grand-chose. Déjà, tout dépend des seuils et des spécialités qu'on étudie. Et puis, surtout, en économie de la santé, les déséquilibres entre l'offre et la demande ne s'expliquent pas que par des problèmes de densité de médecins par rapport au nombre d'habitants. Julien Mousquès, enseignant-chercheur en économie de la santé à l'École des hautes études en santé publique et directeur de recherche à l'IRDES, va vous expliquer tout ça.
Les outils qui sont à notre disposition, ça va de, on va appeler des indicateurs synthétiques, donc ça va être une mesure proprement dite. Et là, il y en a de multiples qui peuvent donner à voir ce qu'on appelle en économie des déséquilibres entre l'offre et la demande. Le plus populaire que vous devez connaître, c'est la densité. La densité, ça va rapporter un nombre d'offreurs à un nombre d'habitants sur un territoire qu'on va définir. Il y a aussi la question des distances qui peuvent s'estimer en temps, en kilomètres, etc. Ça peut être des délais d'attente ou de l'incapacité à s'inscrire auprès d'un médecin traitant. Enfin, voilà, tout ça, c'est son... Chaque indicateur synthétique va traduire d'une façon ces déséquilibres offre-demande, aucun ne résume à lui seul ces déséquilibres.
Et puis, ce n'est pas tout. On peut aussi s'intéresser à l'intensité de l'activité des médecins. Un médecin qui travaille 2 jours par semaine et un médecin qui travaille 5 jours, ce n'est pas pareil.
Merci, perspicace boy.
Ou encore à la qualité des soins apportés, au prix des consultations, ou encore à l'état de santé des populations étudiées. Donc tu le vois, Emmanuel, la question de l'accessibilité aux soins est une problématique multidimensionnelle.
Oui, effectivement. Mais on n'a pas en France un indicateur institutionnel qui nous permet de cartographier la France et d'y voir plus clair entre les territoires sous-dotés en soins de santé et surdotés
Alors si, mais là encore, je le précise, celui-ci ne prend pas en compte tous les paramètres cités plus haut. Cet indicateur, il se nomme APL, pour accessibilité aux professionnels de santé. C'est ce qu'on appelle un indicateur synthétique. Il est calculé par commune et a été développé il y a une dizaine d'années par la DRES et l'IRDES. On vous met quelques sources en description si vous voulez entrer dans les détails de la méthodologie. Mais en gros, cet indicateur prend à la fois la distance entre l'offre et la demande, calcule l'offre en intensité d'activité, plus intéressante qu'un simple dénombrement des médecins, et il s'intéresse aussi aux structures d'âge des populations, donc à la demande. L'objectif, prendre en compte les besoins de soins accrus de certaines classes d'âge, et notamment des plus âgés. Ainsi, l'indicateur nous donne le nombre, pondéré par toutes ces variables, de consultations par an et par habitant sur une commune. Si ce nombre se situe en dessous de 2,5, on considère que cette commune est sous-dense ou sous-dotée.
Et donc, combien de personnes sont dans des communes problématiques ?
Alors, par exemple, si on prend cet indicateur et ce seuil de 2,5, en 2018, environ 6% de la population vivait dans une zone sous-dotée en médecins généralistes. C'est environ 4 millions de personnes. Mais pour Julien Mousquez, qui prend davantage d'indicateurs en considération, ce chiffre est bien plus haut.
Si on s'appuie sur ces indicateurs synthétiques, qui sont, j'en parle parce qu'ils sont mobilisés par exemple dans la définition des zones prioritaires, des zones sous-dotées. On s'appuie sur cela plus quelques ajustements. Ça dépend le type de territoire dont on parle. Si on prend les espaces ruraux sur les professions sur le premier recours, comme sur la médecine générale, on va être entre 11 et 36% de la population qui va être considérée comme ayant des difficultés. Si on parle de territoire urbain, ça va être entre 2 et 20%, etc. Donc ça va vraiment dépendre. Un, de la profession, de la discipline, et deux, du type de territoire auquel on s'adresse. Et pour faire simple, les territoires les plus marqués, c'est les territoires ruraux.
Selon lui et de nombreux rapports, environ 30% de la population française, très majoritairement dans les marges rurales ou certains espaces périurbains, réside dans des territoires sous-dotés en services de premier secours, dont la médecine généraliste, contre un peu moins de 8% en 2012. Donc tu vois, ça fait quand même beaucoup de monde et puis surtout, ça ne va pas dans le bon sens.
Oui mais attends, au début tu disais que plus de 80% de la population se trouvait dans un désert médical. Pourquoi les chiffres entre la DRES et l'UFC Que Choisir sont-ils différents ?
Eh bien tout simplement parce que les seuils et méthodes ne sont pas tout à fait les mêmes. Pour les chiffres d'avant, on a dit « est un territoire sous-doté dans une certaine médecine si son APL se situe en dessous de 2,5 ». L'UFC Que Choisir prend un autre seuil. Celle-ci considère qu'un territoire est un désert médical si son APL est au moins 60% en dessous de la moyenne nationale. Cette moyenne étant seulement d'environ 3,5 aujourd'hui en France. Et l'association ne s'arrête pas là. Elle essaye aussi de prendre en compte l'aspect financier. Pour cela, elle décide de ne pas prendre en compte les médecins qui pratiquent des dépassement d'honoraires. Ce sont des praticiens hors médecine généraliste qui appliquent des tarifs supérieurs aux tarifs conventionnés. Eux, elle les supprime du calcul. Et donc, selon elle, 83% de la population vit dans un désert médical pour au moins l'une des spécialités généraliste, pédiatre, ophtalmo ou gynéco.
Bon d'accord, mais alors au diable la guerre des chiffres, c'est quoi le constat ?
Eh bien que la situation est vraiment problématique et que depuis 20 ans, ce phénomène de déserts médicaux ne se réduit pas, voire s'empire pour certaines professions et certains territoires et que les politiques actuelles ne suffisent pas.
Mais bon, comment est-ce qu'on en est arrivé là ?
Alors là aussi, les raisons sont multidimensionnelles. On peut résumer cela en trois parties. Des choix politiques, des changements en ce qui concerne les caractéristiques des professionnels de santé et enfin, des problèmes structurels. Commençons par les choix politiques des années 70-80. Julien Mousquez.
Dans les établissements de formation, et notamment évidemment le rôle très important des hôpitaux, qui sont les lieux de formation. Et autour des années, à fin des années 60, début 70, il a été décidé de concert, pour faire simple, enfin, toutes les parties prenantes, hein, que ça soit les tutelles ou que ça soit les professionnels, ont considéré qu'il fallait fixer un numerus clausus. Donc c'est le nombre d'étudiants admis en deuxième année. Ça, fixer ce nombre-là, c'est fixer le nombre de professionnels qui sont, de médecins qui sont formés, et donc ceux qui vont sortir à la fin des études après 7, 8, 9, 10 ans. Okay. Donc ça, c'est une construction sociale qui est le fruit. Alors du côté professionnel, quel intérêt y voyez ? Garantir les qualités de la formation parce qu'on sait combien on a à former, donc on connaît nos capacités de formation, on s'assure que les qualités de formation sont adaptées à nos capacités. Maîtriser aussi le nombre de ceux qui seront sur le marché plus tard, donc c'est une façon de contrôler et de savoir combien il y aura d'offreurs et de maîtriser la répartition, si je suis taquin, du gâteau qu'on peut se partager, etc., etc. Du côté des tutelles, C'était important parce que y a quand même l'idée que derrière un offreur de soins, il y a des soins et services, mais il y a aussi des prescripteurs, que parfois ils vont peut-être au-delà du strict nécessaire. Après, pourquoi est-ce qu'on l'a géré de façon erratique ? C'est un peu plus difficile de tirer des conclusions définitives, mais si on est passé de autour de 8 9 000 à 3 005 dans les années 90, pour faire simple, hein, et aujourd'hui on est revenu au-delà de 9 000 en numerus clausus, puis après en numerus apertus, donc on a une courbe en U, hein, sur cette période-là. Si ça s'est passé comme ça, c'est parce que probablement qu'ils sont descendus à 3005 parce qu'ils avaient l'impression que la densité à ce moment-là avait augmenté de façon très très importante, beaucoup plus rapidement que la population.
Donc, première raison, un numerus clausus qui a limité le nombre de professionnels formés. Mais vous verrez ensuite que cet argument mérite d'être étoffé, voire relativisé. Ensuite, une question de temps de travail. C'est notamment ce que révèle Julien Sillol, économiste de la santé à l'université Aix-Marseille.
Ce qui est essentiel à comprendre, c'est que c'est pas tant un problème d'effectif de médecins qui nous met dans cette situation aujourd'hui qu'un problème de temps de travail des nouvelles générations. Un médecin de 40 ans aujourd'hui travaille beaucoup moins que la génération qui part à la retraite au moment où cette génération avait 40 ans. Et donc ça a été pas ou peu anticipé. Et donc cette baisse du temps de travail, elle est d'abord portée par la féminisation du métier. Donc, si on regarde l'ensemble des médecins, salariés, non salariés, spécialistes et généralistes, 60% de ceux qui ont moins de 40 ans sont des femmes, alors qu'il y a parité pour les quinquagénaires. Et donc, en moyenne, les femmes médecins produisent 30% d'activité de moins que les hommes. Si on regarde dans les données, c'est évidemment porté par la structure familiale et par la répartition des tâches au sein du foyer, comme dans toutes les professions. En général, c'est la seule note d'espoir qu'on peut avoir dans ce tableau statistique qu'on peut dresser sur les déserts médicaux, c'est que peut-être que cette nouvelle génération de médecins, quand leurs enfants seront grandis, ben, on aura une offre qui va pouvoir arriver tout à coup sur une offre de soins nouvelle. La féminisation, c'est pas le seul point. Hein. Si on compare les hommes aussi, les jeunes médecins souhaitent moins travailler que leurs aînés. Et en parallèle, on a une augmentation de la demande très forte.
Notamment à cause du vieillissement de la population. Enfin, la dernière cause, et celle-là fait largement consensus dans le milieu scientifique, ce sont les choix des médecins. Notamment parce que les médecins généralistes et certains spécialistes ont la liberté de s'installer où ils le souhaitent. Et cela, contrairement à d'autres professionnels, les sages-femmes, les infirmières, les kinésithérapeutes ou encore dernièrement les dentistes.
Mais attends Robin, justement, si je me place d'un point de vue purement économique, les nouveaux médecins libéraux ont beaucoup plus d'intérêt à s'installer dans des déserts médicaux, où il y aura moins de concurrence, ils pourront donc faire plus de chiffres.
Alors oui, dans l'idée, c'est ce qu'on pourrait penser. Sauf que quand on parle de santé, eh bien cette théorie ne fonctionne pas. Et notamment à cause de ce qu'on appelle la demande induite. Julien Sillol vous explique.
C'est pas du tout ce qui se passe, ce mécanisme ne marche pas. Donc pour plusieurs raisons. D'abord, parce que même dans les zones où ils sont relativement à d'autres zones plus nombreux, eh bien ils sont pas. Il reste quand même une demande très forte. Et puis, ce qui est mis en évidence aussi par la littérature économique, c'est des phénomènes de demande induite. Donc l'asymétrie d'information entre le patient et le médecin conduit un médecin qui aurait une activité qu'il juge trop basse à pouvoir créer de la demande. Alors la demande induite, elle prend des aspects que tout le monde peut intuiter. Par exemple, le médecin va vous proposer de faire des analyses et va vous demander de revenir une fois ces analyses faites et donc faire passer la carte vitale une fois de plus. Alors que dans un désert médical, bon, là, il va recevoir les analyses et puis surtout, il veut pas vous revoir pour consacrer du temps à d'autres patients, en particulier si les analyses sont bonnes. Et donc, on voit qu'en fait, le médecin peut, de fait, il le fait. Il y a énormément de travaux qui le montrent. C'est pas remis en question. Peut agir sur la demande.
En gros, même si un médecin a peu de patients, il peut quand même atteindre ses standards de revenus en demandant à ses patients d'être suivis plus régulièrement, même pour des petites choses. Les médecins peuvent même avoir recours à une autre stratégie s'ils n'arrivent pas à atteindre leur cible, et notamment dans les territoires surdotés. Le dépassement d'honoraires. Dans ce cas-là, ils vont viser des patients avec des revenus plus élevés.
Ah oui, en effet, c'est donc plus compliqué qu'une simple loi d'offre et de demande. Mais du coup, Robin, comment les médecins qui ont cette liberté choisissent-ils les endroits où ils souhaitent exercer ?
Alors, je vais essayer de résumer le plus précisément possible ce que m'ont dit les deux experts. Tout d'abord, il est nécessaire de rappeler deux choses. Les médecins sont majoritairement issus de milieux socio-économiques favorisés. Donc ils vivent leur jeunesse davantage dans des zones urbaines ou périurbaines, moyennement ou très denses. Ensuite, les centres de formation et les hôpitaux sont eux aussi principalement présents dans des zones urbaines plutôt bien dotées en médecins. Et quels sont les deux principaux déterminants du choix du lieu d'implantation des médecins ? Les attaches familiales, les environnements d'origine et le cadre de vie et familial. Travail du conjoint, éducation pour les enfants et autres accès aux services, loisirs. Donc en gros, les médecins s'installent soit dans leur territoire natal, soit là où ils ont fait leurs longues études et où ils ont déjà créé leur vie. Un autre déterminant important est les conditions d'exercice. Et s'installer dans des zones peu dotées en soins, peu de possibilités de coopération avec des collègues ayant une autre spécialité, des équipements vétustes, etc. Et avoir une lourde charge de travail, ça ne donne pas vraiment envie. Notamment parce qu'il est plus difficile de suivre correctement ses patients. C'est notamment ce que m'a expliqué Julien Sillol, qui a beaucoup travaillé sur cette question. Et tout ça en rappelant que ce n'est pas parce qu'on vit dans un territoire très concurrentiel qu'on ne va pas pouvoir gagner correctement sa vie.
C'est donc pour ça que les gouvernements successifs mettent en place des incitations à l'installation dans des zones tendues.
Oui, et c'est aussi pour ces raisons que le gouvernement actuel a fait sauter le numerus clausus en 2021. Mais selon nos deux experts, ces incitations et le fait de former plus de médecins ne résoudra que très partiellement le problème, ou du moins le résoudra dans un espace-temps assez long. Tout d'abord parce que l'idée de saturer l'offre dans les territoires attractifs et concurrentiels, avec l'idée que cela conduise naturellement les médecins à s'installer dans les territoires moins attractifs, bah avec tout ce qu'on a dit, on voit que ça ne marche que très partiellement.
Oui, mais concernant les mesures incitatives, ça devrait marcher quand même, non ?
Alors, pour précision, les mesures incitatives pour aider les médecins à s'installer en zone sous-dense coûtent cher. 87 millions d'euros en 2015, selon la Cour des comptes. Ce sont des primes et aides à l'installation, des garanties de revenus, des majorations des honoraires ou encore des exonérations de charges, cotisations, taxes ou impôts. Sauf que selon la Cour des comptes et de nombreuses études, elles sont très peu lisibles et peu efficaces. Et cela peut se voir très facilement. On est d'accord que l'espérance de revenus est déjà plus importante dans les territoires sous-dotés et moins concurrentiels. Pourtant, rien ne change malgré ces aides et cette espérance de revenus supérieure potentielle.
Bon, une fois qu'on a dit tout ça, on va pas se mentir, la solution semble être mettre fin à la libre installation des médecins généralistes et spécialistes et les contraindre d'aller exercer, au moins pour un certain temps, dans des zones tendues.
Alors oui, c'est la solution à laquelle nous pensons toutes et toutes. C'est d'ailleurs ce que demande l'UFC Que Choisir et récemment de nombreux députés. Mais cela soulève de nombreuses questions et pourrait amener des effets pervers. Julien Mousquès explique que si cela marche pour des professions en nombre important, par exemple les infirmières et les infirmiers, pour les médecins, ce serait plus compliqué.
Ça marche sur une profession qui a connu des flux de formation très importants et qui est en nombre important. Mais faire ça sur une profession où on est dans une phase de raréfaction et où de toute façon il faudrait amener quasiment des médecins presque partout, puisqu'on peut aller en fonction des critères dont on a parlé jusqu'à 40% de la population qui a des difficultés d'accès aux médecins généralistes, la question c'est que de toute façon on n'en avait pas suffisamment pour couvrir tout le territoire. Alors là pour le coup on ne sait pas, c'est pas estimé, mais on peut penser que ça pourrait constituer un risque de détournement des études médicales, puisque on rentre dans les études, peut-être qu'on rentre aussi avec l'idée qu'on a en tête qu'on peut s'installer où on veut, et que si on peut pas s'installer où on veut, on n'aura pas envie d'aller en libéral, on n'ira qu'à l'hôpital, ou on va pas rentrer dans les études de médecine et on va aller faire autre chose. Donc ce risque, on peut pas totalement écarter le fait qu'il puisse se réaliser.
Et puis cela peut amener un autre risque, notamment si on oblige les nouveaux médecins à passer 2, 3 ou 4 ans dans une zone tendue avant de pouvoir s'installer où ils le souhaitent. Car on est bien d'accord que l'objectif, et notamment pour la médecine généraliste, est d'avoir des professionnels qui restent sur un temps long. Pour voir ça, on peut s'intéresser à l'exemple du Québec. Dans cette province du Canada, à la sortie de leur formation, les médecins généralistes doivent respecter des quotas de postes réservés par région. Quand la limite est atteinte dans une zone qui attire, comme Montréal par exemple, ils ne peuvent s'y établir et doivent opter pour une autre région. Après 3 ans, en région éloignée, voire insuffisamment pourvue en médecins, ils obtiennent le droit de s'installer où ils le souhaitent, même si les quotas sont pleins. Alors oui, les résultats semblent probants. Pour voir ça, on vous invite à lire un article écrit par Alexis Gacon dans Alternatives économiques. Mais il y a des mais, notamment que les nouveaux formés ne restent pas dans ces territoires peu attractifs. Le turnover est donc très important et cela pose problème en termes de suivi des patients.
Bon d'accord, mais dans l'état actuel des choses et après ce que tu viens de nous raconter, je ne vois pas d'autre solution.
Alors d'abord, l'idée n'est pas de jeter complètement cette idée à la poubelle, mais de l'appliquer, si le politique est pour, avec précaution. D'ailleurs, on comprend bien que politiquement, ce genre de décision peut faire perdre beaucoup de voix. Par contre, oui, d'autres solutions existent, réellement. Et notamment le développement des maisons de santé pluridisciplinaires, on dit des MSP, dans les zones les moins bien dotées. C'est d'ailleurs l'un des objectifs du gouvernement d'augmenter le nombre de MSP. Il souhaite que la France dispose à l'horizon 2027 de 4000 maisons de santé pluriprofessionnelles. Alors déjà, qu'est-ce que c'est ces maisons ? Julien Mousquès.
Alors c'est quoi ? C'est des structures qui regroupent différentes catégories de professionnels et autour avec le médecin généraliste. Donc c'est médecine générale, plus ou moins d'autres disciplines. Mais en général, il y a très peu de spécialistes d'autres disciplines médicales et d'autres professions, et notamment des professions paramédicales comme les infirmiers, infirmières, les masseurs kinés, pédicures, podologues, sages-femmes, et d'autres professions médicales comme les sages-femmes, les dentistes, pharmaciens. C'est la forme plébiscitée pour les nouveaux médecins formés qui s'installent. Plus de 80% d'une nouvelle année qui sort avec le diplôme va s'orienter vers ce type de structure.
Bon alors, pourquoi ça marche, ces MSP ?
Il y a eu un travail de la profession qui a promu ce type de mode d'exercice, qui a rencontré un soutien institutionnel, soit sur l'aide à l'investissement et ou sur l'aide au fonctionnement de ces structures. Donc avec de la ressource publique pour aider à construire les structures ou à aider à transformer les structures pour qu'elles puissent passer en maison de santé. Et puis, un contrat particulier qui s'appelle l'ACI, l'accord conventionnel interprofessionnel, qui, pour des structures volontaires qui sont maisons de santé, ils ont un contrat avec l'assurance maladie. Avec ce contrat, ils touchent des ressources en plus de la rémunération des professionnels habituels. Donc cet argent, ça leur permet d'investir dans l'informatique, de compenser les temps de réunion qu'ils ont ensemble, voilà, de salarier du personnel qui va travailler à la coordination dans la structure, etc. Donc ça permet d'étoffer en gros les capacités de ces structures et donc notamment de répondre à la demande des patients. Et dans les travaux qu'on a fait, il faut bien comprendre que les conditions d'exercice sont un des déterminants de l'installation.
Ainsi, améliorer les conditions de travail dans ces territoires grâce à ces maisons pour que de jeunes médecins viennent s'y installer, eh bien, ça semble fonctionner.
Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses ?
Alors, quelque chose qui est de plus en plus courant, c'est ce qu'on appelle la télémédecine. Elle est surtout utilisée par les médecins généralistes. En gros, vous faites votre consultation derrière un ordinateur. Mais pour les deux experts, ce n'est pas vraiment une solution qui permettra de résoudre structurellement le problème. Julien Sillol.
Donc la télémédecine, c'est une forme d'ubérisation du métier de médecin, dont le médecin est chez lui, et puis quand il souhaite avoir un revenu, il va se connecter sur des plateformes qui ne sont pas forcément très bien sécurisées du point de vue des données de santé. Et donc, elle induit qu'il n'y a plus de rapport physique entre le médecin et le patient. Alors, moi, je ne suis pas médecin, mais je pense quand même que écouter un corps, un poumon, un cœur, ça doit rester palpé, un corps, ça doit rester une tâche centrale dans le métier de médecin. On peut imaginer un mix, par exemple, que son propre médecin traitant, à certains moments, fasse une consultation de télémédecine avec vous. Après, rencontrer des médecins inconnus via ce type d'outils, de mon point de vue, mais je suis pas spécialiste là-dedans, c'est quand même une moins bonne prise en charge.
Il faut donc aussi s'intéresser à la qualité des soins apportés. Des initiatives qui essayent de limiter ce phénomène de déserts médicaux, il en existe beaucoup. On vous met d'ailleurs en lien un autre article d'Alternative Économique qui explique bien tout ça.
Une autre solution, ça pourrait être de construire de nouveaux centres de formation dans des territoires tendus pour que les nouveaux médecins aient plus tendance à s'installer dans ces territoires, ou encore de diversifier les profils socio-économiques des étudiants en médecine.
Tout à fait. Encore faut-il que la volonté politique soit là. Pour conclure, on peut dire que le phénomène des déserts médicaux est un vrai et courant et complexe problème dans notre pays. L'accès aux soins pour toutes et tous, ça doit être une priorité, pas seulement pour des raisons d'égalité et de fraternité, mais aussi pour des raisons économiques et sociales. Une population qui a davantage accès aux soins vit mieux et travaillent mieux. Alors, doit-on supprimer la libre installation des médecins ? La question reste ouverte et largement débattue dans notre pays. Ce qui est sûr, c'est que des solutions existent pour résoudre structurellement ce problème. Mais comme on le dit très souvent à la fin de nos podcasts, il faudra beaucoup d'huile de coude, de l'intelligence et surtout beaucoup d'argent.
Merci Robin pour cet épisode qui prend la suite de celui qu'Étienne avait consacré aux médecins généralistes il y a de sa belle lurette. Si vous aussi vous avez aimé cet épisode et Splash de manière générale, n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles sur les plateformes Apple et Spotify, ça nous aide à être mieux référencés. À lundi prochain.
Splash est un podcast produit par Nouvelles Écoutes, écrit et animé par moi, Robin Lemoine, en compagnie d'Emmanuel Martin. Prise de son, montage et mixage, Adrien Beccaria à l'arrière-boutique studio. Réalisé par Adrien Beccaria et Mathilde Jonin, produit par Julien Neuville, directrice générale adjointe Nora Issem, directrice des productions Marion Gourdon, chargée de production Mathilde Jonin, avec l'aide de Lila Bordelais.